On a un Dieu qui est grand. Donc cette semaine, on était à Londres et il y avait une conférence, c'était la conférence Hillsong. Et franchement, c'est ce que je dis tous les ans, mais là, je n'ai jamais passé une conférence comme ça. Le seul regret que j'avais, c'est que vous n'y soyez pas. C'était quelque chose d'impressionnant. C'était, je ne veux pas dire, c'est pas le spectacle, hein, c'est pas ça. C'est le titre de la conférence, c'était « Il y a plus ». Il y a plus. Et sincèrement, quand tous les jours, je voyais des centaines de personnes qui donnaient leur vie à Dieu, je me disais, c'est pas possible. Tous les soirs, il y a des nouvelles personnes qui venaient. Le dernier soir, l'Arena O2, elle contient à peu près 30 000 personnes. Elle était pleine, mais pleine. Ça allait. Enfin, c'était. À un moment donné, ils ont mis au-dessus, j'avais le vertige. C'était. Ça descend. Mais j'ai jamais vu des choses aussi merveilleuses. Et surtout, c'est le titre de la conférence, c'est ce leitmotiv. Je ne vais pas vous faire un message sur la conférence. J'attends que Mathilde et Luc et Sarah et Thomas reviennent. Nanette, elle voulait venir, mais. En France, on est toujours super avec les grèves, donc elle n'a pas pu venir. Mathilde et Luc et puis Thomas, ils n'ont pas pu repartir parce qu'il y avait les grèves. Enfin, vous voyez, c'est... Et nous, on était... Heureusement, on avait pris l'aéroport pour aller en Allemagne. Et les Allemands, eux, ils n'ont pas fait grève. Voilà. Mais bref, c'était le dernier vol Ryanair qui existait. C'était le nôtre, hein, le dernier vol. Il n'y en a pas eu d'autres après, ni en Allemagne, ni de quoi que ce soit. Mais c'était surtout ce leitmotiv. Il y a plus... Il y a plus. En Dieu, il y a plus. Avec Dieu, il y a plus. Ça veut dire qu'il y a plus de tout. Tout à l'heure, Mathieu parlait d'abondance, mais il y a vraiment plus de tout. Il y a plus d'âme, il y a plus d'amour, il y a plus de paix, il y a plus de guérison, il y a plus de pourvoiement, il y a plus de sa présence. Ça, c'est assez incroyable. Des fois, on se fait du souci. Et moi, je suis des fois quelqu'un qui me fait du souci. Et ça n'a pas l'air. Hein. Mais... Ça passe très vite, donc ça ne se voit pas. Mais quand je me fais du souci, je me fais du souci. Et ça me travaille. Mais je me dis, mais avec Dieu, on ne risque rien. On ne risque absolument rien. Parce qu'il a toujours en abondance. La Bible dit qu'il est prêt à ouvrir les écluses du ciel pour agir dans notre vie. Déjà, quand il pleut ou quand il grêle, c'est déjà terrible. Mais des écluses de bénédiction. Mais vas-y, Seigneur. Vas-y, pas les lumières, les écluses de bénédiction, c'est super. Et pourquoi Dieu veut faire ça? Parce que le leitmotiv de cette conférence, et ça je dis, tant pis pour toi Bastien que tu ne sois pas venu, mais tu aurais dû venir quand même, c'était sauver les âmes perdues car elles ont de la valeur. Pendant tous les trois jours de temps, c'était sauver les âmes, sauver les âmes, sauver les perdus. Le reste n'avait aucune importance. Tous les messages, c'était aller chercher ceux qui sont perdus. Amen. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient malades, qu'ils soient en bonne santé, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des jeunes, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit des réfugiés, que ce soit n'importe qui. Tous ont besoin de Jésus. Tous ont besoin de savoir qu'en Jésus, il y a plus pour leur vie ici-bas et surtout plus pour l'éternité. Amen. Et je me dis, quand je faisais ce message cette nuit, je vais vous dire, j'arrivais pas à dormir. Donc c'est comme ça, c'est très bien. Je me suis couché, j'ai commencé le message à 10h du soir, j'étais en pleine forme. Je dis, ouais, c'est super, je vais commencer mon message, ça allait bien. Et je commence, et à 11h, j'avais déjà dormi 5 minutes. Je tombais comme ça. À minuit, je dis, je vais aller me coucher. Et je dis, je vais le faire demain matin. Je savais ce que je voulais faire, donc c'était cool. À 1h du matin, je ne dormais pas. J'étais malade, mais malade. Je sais pas, on aurait pu prier ensemble, Bertrand. Mais j'étais vraiment mal, j'avais de la fièvre, j'ai mouillé. Enfin, j'étais vraiment pas bien. À 2h, j'ai dit, bon, je me lève, je prie. Et puis, j'ai commencé mon message jusqu'à 7h30 ce matin. Et franchement, j'étais heureux. Je suis super heureux. Je dis un petit peu fatigué, mais ce n'est pas gênant, ça. Je suis vraiment en pleine forme. On a fait pire hein, avant, quand on était jeunes, ça, on partait 2-3 jours, hein, comme ça. Mais là, pour Dieu, on peut faire des choses extraordinaires. Et vraiment, je me dis, mais si S'il y a des personnes qui viennent pour la première fois ici, et vous dites, mais de quoi je parle? Peut-être que vous vous dites, mais tout se part de Dieu comme le Créateur qui est à la base de tout. Mais est-ce que c'est possible de connaître Dieu? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous dire, en fait, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Il nous a créés pour qu'on puisse le connaître. C'est pour ça que vous êtes là. Ce n'est pas un hasard. C'est afin que vous puissiez connaître Dieu. Amen. Il y en a qui disent, oui, mais Dieu est tellement loin. Il est tellement distant, il est impersonnel, il est même désintéressé. Qu'est-ce qui va s'occuper de moi? Et là, ça se trouve le problème. Tous, on sait. Et ça, c'est intuitif. On sait tous que le monde n'est pas le fruit du hasard. Je suis persuadé que n'importe qui pense qu'il y a eu quelque chose. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et je me dis, toujours comme toute montre a besoin d'un horloger, la Terre, elle a eu besoin d'un créateur. C'est comme ça, il y a eu quelque chose. Et tout en sachant intuitivement que Dieu existe, on ne l'a pas traité comme il le mérite. On a fait la fête aux champions du monde. On est champion du monde. On a fait la fête aux champions du monde. Champion du monde pendant 4 ans et demi, plus que les autres nations. Enfin, j'espère. Mais est-ce qu'on a agi ainsi avec Dieu? On se dit, mais oh, Dieu, il est Dieu, ça n'a pas beaucoup d'importance si j'obéis pas à ce qu'il me demande. Face au commandement de Dieu, bah, c'est pas grave. Mais pour Dieu, en faire à sa tête, ça représente une rébellion qui brise notre relation avec lui. Et dans le langage chrétien, ou dans le langage biblique, ça s'appelle péché. Et péché, ça entraîne une séparation d'avec Dieu, notre Créateur. Alors on essaye de pallier aux choses. Parce qu'on sait que finalement, on ne fait pas des bonnes choses. L'autre jour, j'avais une collègue de travail, elle téléphonait parce qu'il y avait une autre collègue qui disait, écoute, j'ai ma nièce qui a des problèmes, elle a un handicap, et puis elle n'arrive pas à avoir sa pension d'invalidité, enfin bref, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et elle, franchement, c'est une fille qui est super pour ça. Elle s'est démenée et en quelques temps, elle dit, ça y est, elle l'a rappelé, tout est fait. Ta pension d'invalidité, ta nièce aura sa pension d'invalidité en rien de temps. Et je l'entends dire, je pense que la collègue au bout du fil a dû lui dire, je te remercie, elle lui dit, j'ai acheté un petit bout de mon ciel. J'ai acheté un petit bout de mon paradis. C'était ce qu'elle pensait. Hein. Et je crois que il y a beaucoup de personnes qui savent ces choses, qui a un vide au fond d'eux. Alors elles tentent de construire des ponts pour se réconcilier avec Dieu. On établit nos propres règles et souvent elles sont bonnes. On va aider les gens, c'est ce qu'elle a fait. On va faire de bonnes choses. On va mériter son ciel, comme on dit. Mais parce qu'on est imparfait, parce que c'est notre justice, elle n'est pas à la hauteur de la loi de Dieu, tous nos efforts, ça ne sert à rien. Forcément, ils sont insuffisants. Et si ça tenait qu'à nos efforts, vous ne serez jamais réconcilié avec Dieu. Mais heureusement, la Bible dit que Dieu est intervenu. Tout à l'heure, Matthieu vous a parlé de la croix, mais Dieu est intervenu. Dieu, il s'est fait homme en Jésus-Christ et il a porté notre « on n'en fait qu'à sa tête » ou nos péchés, il les a portés sur lui parce que ça nous séparait de Dieu. Amen. Et parce qu'on était incapables de nous réconcilier avec Dieu, Dieu il a jeté lui-même un pont dans l'abîme qui nous séparait de lui. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon pour les libérer tous. Dieu a fourni le seul pont. Et qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça qui est important. La seule chose que vous pouvez faire, c'est recevoir Jésus-Christ. Ce que Dieu vous demande, c'est de mettre votre confiance en Jésus, de le recevoir dans votre vie comme Dieu, votre maître. Amen. Et on se dit, est-ce que je suis centré sur l'homme c'est-à-dire sur la séparation, la rébellion, sur une vie dénuée de sens, ou est-ce que je suis centré sur Dieu, sur le pardon, sur la paix, sur la joie? C'est moi qui choisis. Et la seule façon pour recevoir Jésus-Christ, c'est de prendre le pont qu'il a lui-même posé pour qu'on soit réconcilié avec lui. Admettre votre état de séparation, ça veut dire je suis pécheur, j'en ai fait jusqu'à ma tête, jusqu'à maintenant, j'admets ces choses. Désirer profondément de se détourner de ses péchés, ça s'appelle la repentance, et puis mettre mon entière confiance en lui. Il est mort à ma place pour faire le pont entre moi et Dieu. Amen. Et si je fais ces choses, alors ma vie, elle va changer. Par une simple prière, toutes ces choses, elles rentrent eh bien, dans ma vie. Par une simple prière, je suis réconcilié avec Dieu. Amen. Par une simple prière, l'abondance qu'il y a dans le ciel, elle vient dans ma vie. Par une simple prière, j'ai un passage qui me permet eh bien, d'aller à Dieu. Amen. Jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas. Je pensais que ce que je faisais, c'était bien. C'était une bonne chose et c'était des bonnes choses. Mais ça n'a aucune valeur. Ça n'a pas de valeur. Cette semaine, on était en Angleterre et si en Angleterre, tu payes avec des euros, ça vaut rien. Ils vont dire, mais on peut rien faire avec ça. Ce n'est pas la monnaie du pays. La monnaie du ciel, c'est le sang de Jésus. Il n'y a qu'avec ça que tu peux aller au ciel. Tu peux être réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas par tes propres efforts. Ce n'est pas parce que tu as fait. C'est parce que c'est Dieu en premier. D'abord Dieu. Et si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, alors Dieu eh bien, va agir. Amen. Il y aura un pont entre vous et Dieu. Et vous allez le connaître comme il voudrait que vous le connaissiez. Alors ce matin, on va changer un petit peu les habitudes, mais on est là. Et j'aimerais vous proposer peut-être à vous, peut-être, je ne sais pas si vous avez tous fait la paix avec Dieu, mais j'aimerais que vous puissiez faire cette prière avec moi. Une prière très simple afin que de vous approcher de Dieu. Amen. Afin que vous puissiez saisir le plan parfait de Dieu pour votre vie. Vous êtes d'accord ? On va incliner nos têtes. Et à trois, je vais prier, compter jusqu'à trois, et qu'à trois, vous puissiez lever votre main si vous êtes prêt eh bien, à accepter que Jésus soit le pont entre vous et Dieu. Que vous puissiez accepter que Jésus a pris tous vos péchés pour vous réconcilier avec le Père. Un, rappelle-toi ce que Jésus a fait. Il t'a créé parce qu'il veut te connaître. Et que tu puisses le rencontrer. Deux, tout ce que tu as fait dans ta vie, les choses bonnes ou mauvaises, toutes ces choses ne peuvent pas eh bien, t'approcher de Dieu. Lui seul peut faire ce pas vers toi pour que tu puisses le rencontrer. Trois, si tu acceptes ce que Jésus a fait sur la croix, si tu acceptes que Jésus est mort pour tes péchés, si tu acceptes qu'il a payé sa vie pour te réconcilier avec le Père, alors ce matin, là où tu es, lève ta main. Lève ta main pendant qu'on a les têtes baissées. Moi, je vais prier pour toi. Amen. Amen, Seigneur. Je te demande de bénir, Seigneur, d'agir puissamment. Fais cette œuvre puissante, Seigneur. Fais cette œuvre puissante, Seigneur. Cette œuvre puissante dans les cœurs, Seigneur. Oh, je te bénis, Seigneur, de ce que tu veux faire, Seigneur. Tu es le Dieu du miracle, Seigneur. Tu as tout accompli il y a 2000 ans. Ce matin encore, que ta grâce, elle puisse couler dans les vies. Amen. Que ce matin, vous puissiez prier avec moi, vous, on va tous prier ensemble, et vous pouvez suivre cette prière que je vais faire, que vous puissiez dire, Seigneur Jésus, j'admets en avoir fait jusqu'à présent qu'à ma tête. J'admets maintenant que je suis pécheur. J'admets que j'ai besoin de ton pardon. Je mets mon espoir dans le fait que tu es mort sur la croix pour faire le pont entre moi et toi. Pour payer mes fautes à ma place. Je crois seul, toi seul peux sauver mon âme. Je t'invite maintenant à entrer dans ma vie pour la guider, afin que je la vive pour toi. Merci Seigneur, pour tout ton amour. Amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas aux mots. Il regarde dans votre cœur. Amen. Et quand on a accepté Dieu dans son cœur, alors il se passe des choses. Jésus entre dans notre vie. Je suis réconcilié avec Dieu. Amen. C'est merveilleux. Mes péchés sont pardonnés. J'ai la vie éternelle. Je débute une nouvelle vie en reconnaissant que Dieu est mon Dieu personnel. Et Dieu m'a laissé sa parole pour que je puisse approfondir, le laisser contrôler tous les domaines de ma vie. Dieu m'a permis que je puisse m'adresser à lui. J'ai des choses à lui dire. On va parler avec lui, ça s'appelle la prière. Il a permis qu'il y ait des églises afin qu'on puisse se rencontrer, qu'on rencontre des personnes qui ont les mêmes convictions que moi. Amen. Et aussi que vous puissiez partager votre foi avec d'autres. Et c'est là que je vais commencer mon message. Dieu nous demande une chose. Je vous en ai déjà parlé l'autre jour, mais Dieu nous demande de sortir de notre zone de confort pour partager la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et je me dis, heureusement qu'un jour Dieu a permis que quelqu'un sorte de sa zone de confort pour me témoigner. Vous savez, Dieu pouvait me rencontrer à un ou deux endroits. Quand j'étais au travail, ce n'était pas la peine. Je bossais, donc il fallait me laisser tranquille. Mais par contre, j'étais un fêtard. Et moi, la semaine, je ne bougeais pas un doigt. Mais alors, à partir du vendredi jusqu'au dimanche soir, j'étais sur toutes les routes. Et dans le village, enfin la ville où on habitait, parce que Josiane, c'est elle qui m'a amené à Dieu. Moi, j'habitais la ville, elle habitait le village. Et entre les deux, il y avait un dancing, comme on l'appelait. Et là, j'allais tous les samedis, j'allais à 11h du soir jusqu'à 6h du matin. Et on dansait, on faisait la fête. Et là, cette fille, elle vient vers moi. Enfin, déjà, non, elle ne vient pas vers moi. Je la vois danser avec une autre fille. Ça ne se fait pas. Deux filles, elles ne dansent pas ensemble. Ce n'est pas possible. Je dis, ah, c'est un gars, il danse avec une fille. Voilà, enfin, c'est ce que je me suis dit. Alors je suis allé la chercher, puis je lui dis, ah, tu ne vas pas danser avec ta copine, danse avec moi. Elle a dit, ouais. Et comme je suis un bon danseur, elle n'a pas pu dire le contraire. Non, mais c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Donc on a dansé ensemble, mais elle, on aurait pu passer une bonne soirée ensemble. Mais non, il fallait qu'elle sorte de sa zone de confort. La voilà pas, pendant qu'on était en train de danser, qu'elle me parle de Jésus. En plein milieu, à minuit, 1h du matin, là, sur cette piste de danse, elle me dit, voilà, j'ai accepté Jésus. Oh, aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce que c'est? Mais ça m'intriguait, quoi. Et elle a persévéré. Et aujourd'hui, Dieu a changé ma vie. Vous voyez comment c'est important de sortir de sa zone de confort. Sortir, eh bien, pour parler, rencontrer des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand on sort de sa zone de confort, on fait la différence. Et je me pose cette question, jusqu'où je suis prêt à aller pour faire ce que Dieu me demande de faire. Il y en a qui disent, oh, mais si vous saviez ce que je vis, je ne peux pas faire ce que je voudrais. Peut-être que vous le pensez. Alors, je vais vous mettre très à l'aise tout de suite. C'est vrai, tu ne peux pas faire ce que tu veux, mais Dieu te demande de faire ce que lui veut. Et c'est ça qui change tout. Il ne s'agit pas de faire ce que je veux, il s'agit de faire ce que Dieu veut. Amen. Et si je suis prêt à faire ce que Dieu veut, je serai surpris de voir toutes les ressources, tout le potentiel que Dieu met à ma disposition. Et toutes ces choses qui sont en moi, alors que je ne le savais pas. À cette conférence, il y avait ce message qui revenait toujours, il y a plus, il y a plus. Et moi, ça fait des semaines. Et je remercie Dieu parce que toutes les fois que je vais dans des conférences, c'est des réponses eh bien, à des questions. Moi, ça me fait des semaines que sauver le monde, ça me chatouille. Ça m'irrite. Pourquoi? Parce que je m'installe. Et c'est ça qui m'énerve. Parce qu'on a tendance à s'installer. J'en fais pas moins, hein. J'en fais pas moins pour Dieu, mais j'en oublie l'essentiel. C'est Dieu et sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est dans 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 4, Celui-là de verset, vous devez le connaître par cœur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout ce que je dois faire, tout ce que je fais, je dois le faire que dans un seul but, le salut des âmes. Parce qu'une âme, elle vaut plus que tout l'or du monde. C'est ce que Jésus nous dit. Ça vaut plus que l'or du monde, amen. Vous savez, Dieu ne nous culpabilise pas de gagner de l'argent. Mais tout ce que nous faisons, ça doit être pour gagner le monde à Christ. L'autre jour, il y avait un pasteur, qui, je vais vous en parler tout à l'heure, mais un pasteur qui prêchait, il disait, il a fait des rêves, il a rêvé, puis il les a écrits. Entre autres, il a fait ce rêve, il a dit, « Seigneur, donne-moi 76 millions de dollars. » Il dit, « En un an, Dieu m'en a donné 200. » Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Pas pour lui, hein. Pour sauver le monde. Dieu a béni au-delà de tout ce qu'il a demandé. Combien on a un Dieu merveilleux, amen. Si on savait ce que Dieu donne, ce que Dieu met à notre disposition, mais on ne le limiterait pas, amen. Cet homme, il s'appelait, je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être que Cara le connaît. Moi, je ne le connaissais pas. Il s'appelle Chris Hodge. C'est ça, Hodges? Voilà, bref. C'est un homme qui a construit une église qui s'appelle, je vous le dis en français, c'est l'église des Highlands, Highland Church. Et c'est quelqu'un qui, en 2001, a quitté l'endroit où il était, c'était en Louisiane, pour partir dans un endroit qui s'appelle l'Alabama. Or, je ne sais pas ce qu'il y a entre Louisiane et l'Alabama. Bon, toujours est-il qu'il est parti là-bas en 2001, avec 34 personnes. Et 18 ans plus tard, c'est la plus grosse église des États-Unis. Ils ont plus de 40 000 personnes dans cette église. Il a ouvert je ne sais pas combien de campus. Il fait des choses extraordinaires pour les gens qui ont des besoins et tout. Parce qu'il a cru que Dieu donnait toujours plus. Amen. Un Dieu de grâce. Un Dieu qui est merveilleux. Amen. Alléluia. Dieu a sorti cet homme de sa zone de confort pour impacter les États-Unis, au moins l'endroit où il est. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus que nous ? Parce qu'il était américain ? Non. Parce qu'il s'appelait Christ, ça fait presque Christ ? Non. On a le même Dieu, on a le même Seigneur, on a le même Sauveur, et on a l'abondance comme chacun, amen. Mais si je mets Dieu en premier, alors Dieu se glorifiera, amen. Je vous ai parlé la dernière fois de cet homme qui avait perdu sa brebis et qui a tout mis en œuvre pour la retrouver. Je vous ai parlé de cette femme qui avait perdu une des 10 pièces d'argent qu'elle avait et qui a mis sa maison sans dessus-dessous pour la retrouver. Je vous ai parlé de cet homme dont le fils avait fui la maison et qui ne s'est réjoui, cet homme, que lorsque son enfant est revenu à la maison après avoir tout dilapidé sa fortune. Et le point commun à chacune de ces histoires, c'est qu'une chose de valeur était perdue et que ça valait le coup de la retrouver. Quand la brebis perdue a été retrouvée, quand la pièce d'argent a été retrouvée, quand le fils prodigue est revenu, il y a eu une grande fête. Et chacune de ces personnes, que ce soit le berger, que ce soit la femme, que ce soit le père qui attendait son fils, chacune de ces personnes, elle est sortie de sa zone de confort pour faire ce qu'elle devait, ce qu'elle savait qu'elle devait faire. Amen. Et ça, c'est important, montrer la différence avec ceux qui disent il y a des choses plus importantes que de perdre son temps à courir le monde pour une brebis, alors qu'il y en a encore 99 autres à la bergerie. Mettre sa maison sans dessus-dessous pour une malheureuse pièce d'argent, alors qu'il y en a encore. Et puis, est-ce que ça vaut la peine de se mettre en peine pour quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête ? Non, merci. Vous savez, cet homme, Chris Hodges, Chris Hodge, peut-être, il a 5 enfants. Il y en a un qui est autiste. il a 17 ans. Il dit « Jamais il m'a empêché d'annoncer l'Évangile. » Et pourtant, hein, il dit un jour, il est parti, il nous racontait cette histoire, c'est assez déroutant. Il dit « On était là, on est allé faire du ski avec toute la famille. » Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas, il était le gamin, on l'a perdu. Dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Et il dit « quand il se perdait, mais il est prêt à faire n'importe quoi. » Il dit « On l'a cherché toute la journée. » Il dit « Je devenais fou. » quoi. Il dit « J'aurais pu tuer quelqu'un. » Et puis il raconte une histoire. Il dit « Voilà, un jour, Jésus, il était là. » Je rappelle cette histoire parce que ça m'a marqué. Je n'ai jamais vu comme ça dans la Bible. Il dit « Jésus, il était là. » Et puis il va annoncer l'Évangile dans une ville qui s'appelle Sichem en Samarie. Sichar, si vous voulez. Et puis là, il rencontre une Samaritaine. Et il lui parle que cette pauvre femme qui a bien des soucis dans sa vie, elle peut rencontrer la source d'eau vive. Alors cette femme, elle dit « Ah ben moi, je voudrais la rencontrer. » Et Jésus lui dit « Cette source d'eau vive, c'est moi qui vais te la donner. » Et cette femme, elle accepte Jésus dans son cœur. Et elle repart alors qu'elle avait une cruche pour faire remplir de l'eau. Elle laisse la cruche, elle part en ville, elle parle à tout le monde. Elle dit « Ouais, j'ai rencontré le Messie, c'est merveilleux, il a changé ma vie. » Les gens viennent vers Jésus. Ils sont tous là, il y a une grande réunion, il y a peut-être des centaines de personnes. Et cet homme, il dit, Chris Hodge, pour revenir, je fais un parallèle, hein. Il dit « Imaginez qu'à ce moment-là, alors qu'on cherchait mon fils qui était perdu, il y a quelqu'un qui soit venu lui dire, un autre enfant qui vient lui dire « Écoute papa, on va manger au McDo ?» Et il dit « C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de la Samaritaine. » Il dit, il y avait des centaines de personnes autour de Jésus et les disciples ont dit, qu'est-ce qu'on mange? Ils ont dit, tu pourrais les renvoyer pour qu'on puisse manger quelque part? Ça, c'est incroyable. Hein, quand on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Vous pourrez lire, c'est dans Jean au chapitre 4. Vous verrez combien des fois Dieu nous invite à sortir de notre zone de confort. Comme lui, cet homme, Christophe, il disait, si un de mes fils m'avait dit, viens, on va manger au McDo, il dit, il n'y en a aucun qui l'a fait. Hein. Mais il dit, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Il y avait des centaines de personnes qui étaient perdues, qui ne connaissaient pas Jésus. Et les disciples disent, on va au McDo? On mange quelque chose? Et souvent, des fois, on fait passer nos petits soucis avant ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Vous savez, dans le ciel, il y a eu un conseil d'administration. Un jour, il y avait le bureau qui était réuni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils étaient dans le ciel et puis ils ont commencé à discuter. Cette créature que Dieu avait créée, elle s'était détournée de lui. Et le Père a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort, de cette abondance qu'il y a dans le ciel, pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Et le Père a dit, qui est-ce qui est prêt à le faire? Jésus l'a dit, moi. Moi, Dieu, je suis prêt à faire ta volonté. Et ça m'a parlé, ces choses. Quand je venais le message ce matin, je me suis dit, mais pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour montrer la différence entre ceux qui disent que Dieu nous aime et ceux qui montrent son amour d'une façon pratique. Il y en a tellement de chrétiens qui disent « Ah, mais Dieu t'aime, Dieu t'aime. » Ça change quoi? Me taper sur l'épaule, dire « Dieu t'aime », moi, c'est pas ça. Gandhi, il disait, alors que l'on parlait de Dieu, il disait « Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, pour un Indien, c'était du temps de Gandhi, ça fait peut-être 40 ans ou 50 ans, il disait « Un Indien, quand tu parles de Dieu, il voit du pain. » Il y a un homme qu'on a vu à cette conférence, je ne me rappelle plus le nom, mais Mathieu doit le connaître. C'est un Indien. Ce gars-là, il était chauffeur de taxi. Et puis il dit, j'ai vu un gosse se faire tabasser. Il dit, je l'ai vu, il était malheureux. Enfin non, il dit, j'ai vu un gamin comme ça qui était là. Et puis, il était malheureux, il mendiait. Alors il dit, j'étais pas bien avec mon taxi. Alors il dit, je me suis arrêté et j'y ai donné de l'argent. Et il dit, ça n'a pas traîné, j'ai avancé, je suis reparti. J'ai vu quelqu'un derrière, une personne âgée qui arrivait, qui te l'a tapé pour lui prendre l'argent. Il dit, mais je ne peux pas laisser ces choses comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et aujourd'hui, cet homme, il a laissé son taxi et il donne à manger à des milliers d'enfants. Il est sorti de sa zone de confort. Il avait son travail, lui. Mais il est sorti de sa zone de confort pour montrer l'amour de Dieu pratiquement. Amen. Dieu a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous en s'abandonnant totalement à la volonté de son Père. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est celle de Zachée. Je l'aime beaucoup parce que la première fois que j'ai prêché, c'était sur ça. Ça a mis des semaines et des semaines pour faire un message. Ça, je peux vous assurer. Qu'est-ce que j'ai mis du temps? Mais je m'en rappelle tout le temps. Dans l'évangile de Luc, regardez au chapitre 19 et au verset 1. On va le lire ensemble. Luc, chapitre 19, verset 1. J'ai plus beaucoup de voix parce que j'ai beaucoup chanté. Et en plus, il faisait chaud, il faisait froid, donc j'ai chopé des courants d'air aussi. Mais c'était tellement bien. Tellement bien. Waouh. Luc, chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, à toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'aime bien cette histoire. Zachée, TPG. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Non. J'aime bien quand vous ne connaissez pas ce que je parle. TPG, ça veut dire trésorier payeur général. Le TPG, c'est le chef des impôts. Voilà. Lui, c'était le chef des impôts de la ville de Jéricho. C'était un voleur. C'était un gars qui était totalement immoral. C'est-à-dire que du côté des Romains, il recevait des choses, il leur en donnait, mais il jouait sur... Et puis du côté des Juifs, ben, il s'arrangeait pour être bien avec eux, pourvu que ça rapporte. C'était ça, lui. Son Dieu, c'était son porte-monnaie. Mais cet homme, il avait un autre problème. Parce que, outre sa petite taille, c'est-à-dire son handicap, parce que c'était un homme handicapé, finalement, il était de petite taille. Un jour, j'entendais un pasteur, ils étaient tellement petits que lorsqu'il s'asseyait sur le bord de sa moquette, ses pieds ne touchaient pas par terre. Mais ça m'avait fait rire, ça. Mais lui, il était tellement de petite taille, il avait tellement cet handicap qu'il s'en sentait aussi mal à l'aise dans son cœur. Lui, il voulait Jésus. Il voulait Jésus, mais qui voulait lui en parler? Personne ne voulait parler à cet homme, même pas les Romains, surtout pas les Juifs. Personne ne voulait en parler. Et dans Jéricho, il est là. Et dans cette ville de Jéricho, il y a un passé. La ville de Jéricho, c'est une ville du temps de Josué. Je ne sais pas du temps de Jésus, mais du temps de Josué, c'était une ville qui était dévouée à la lune. C'est-à-dire, c'était une ville totalement idolâtre. Et la prise de Jéricho par Josué, elle a fait qu'à un moment donné, c'est là qu'on parle toujours. Vous savez, les gens, ils disent, oh, faut pas que ça soit un vendredi 13. Parce que dans la Bible, ils ont marché, ils ont fait le tour de la ville, hein, 13 fois. 13 fois. Et donc, ça porte malheur. Parce que les murs de la ville de Jéricho se sont effondrés, amen. Il y a les trompettes qui ont sonné, il y a les murs qui se sont écroulés, vous pourrez le lire dans la Bible, c'est dans le livre de Josué, je crois au chapitre 6. Et il y avait dans cette ville une pauvre femme qui s'appelait Rahab. Rahab, c'était une prostituée. Il y en a d'autres qui disent que c'est une aubergiste. Mais c'était une prostituée. Et elle, elle a été sauvée. Elle et sa famille. Dans la ville des palmiers, là où il faisait bon vivre. Dans cette ville où il y avait le bonheur, où tout était parfait. Et on peut faire un parallèle entre Zachée et Rahab. C'est que Zachée et Rahab, et quand vous le lisez dans la Bible, c'est que Zachée, il était mis à part. Il était tout seul sur son arbre. Il n'y a personne qui a voulu l'emmener voir Jésus. Et Rahab, elle était toute seule sur le mur, enfin sur les murailles de Jéricho. Pourquoi? Parce que c'était une femme de mauvaise vie, c'était une prostituée. C'était des gens qui étaient mis à l'écart, mais chacun a été sauvé malgré sa différence. Malgré la différence qu'ils avaient avec les gens normaux de la ville, ils ont été sauvés. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune muraille qui peut empêcher leur salut. Aucune. Que ce soit des murailles de race, que ce soit des murailles d'argent, des murailles de notoriété, d'occultisme, de préjugés. Il n'y a aucune muraille qui peut t'empêcher d'être sauvé. Amen. Personne n'a pu empêcher les espions d'entrer dans Jéricho. Personne. Et pourtant, le roi a tout fait pour qu'ils n'y rentrent pas. Mais ils devaient y rentrer parce que cette femme, Rahab, elle devait être sauvée. Personne n'a pu les empêcher. Personne n'a pu empêcher Jésus d'aller chez Zachée. Et pourtant, il y a eu des murmures. Tu ne vas pas rentrer là-dedans, c'est un gars qui fricote avec tout le monde. Ce n'est pas un gars de bonne vie. Et puis les ragots des gens. Personne ne pourra t'empêcher d'aller chercher ceux qui ont besoin de Christ dans leur vie. Amen. Et ça, il faut que tu le saches. Si tu as envie d'aller chercher ceux qui sont perdus, si tu veux sortir de ta zone de confort, alors personne ne pourra t'en empêcher. Tu peux dire, ah oui, mais j'ai ma vie, j'ai ceci, j'ai cela. Ce n'est pas vrai. Ces choses, elles sont la réalité, mais il y a une autre réalité, qui est Jésus-Christ, amen. Et lui, il donne toujours des ponts pour aller chercher ceux qui sont perdus, amen. Vous savez de quoi les gens qui m'entourent ont besoin? Si vous leur posez la question, ils vous disent toujours, on a besoin de vérité, on a besoin d'amour. C'est les seules choses qu'ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde où tout est faux. Où l'honnêteté n'existe plus. Vérité et amour, ça porte un nom, c'est Jésus. Il est écrit qu'il a grandi dans la grâce et dans la vérité, amen. Et nous, nous sommes les porteurs, les mains, les pieds, la bouche de Jésus, amen. Et les gens nous regardent. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'authenticité. La Bible dit, si on lit rapidement encore dans Jean chapitre 13, si vous arrivez encore à me suivre, Jean chapitre 13, il est écrit... Au verset 2, pendant le souper, donc c'est juste avant la fête de Pâques, Jean 13, avant le souper, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et se mit à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint vers Simon et dit... Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Au verset 12, « Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Jésus va donner à ses disciples une leçon d'amour et de vérité. L'amour en se plaçant au niveau des disciples, en prenant la place d'un serviteur. Et quand je regarde cette image, quand je regarde cette histoire, je me dis, qui est-ce qui est le plus grand? Qui est-ce qui est le plus puissant? Est-ce que ce sont les disciples? Ou est-ce que c'est Jésus? Voyez, les choses, elles sont claires pour nous. Tu peux démontrer ta puissance, tu peux démontrer ta grandeur en étant le serviteur de ceux qui t'entourent. Sois le serviteur dans ton mariage. Ça change tout. Ça change les relations. Sois un serviteur dans ton église. Sois un serviteur dans le lieu où tu te trouves. C'est l'exemple que Jésus nous a donné. Je vous ai laissé cet exemple afin que vous le mettiez en pratique et que vous soyez heureux. Et la deuxième chose... C'est la vérité, amen, c'est-à-dire l'authenticité. Et ça, c'est important d'être authentique. Jésus est amour. Il ne se cache pas derrière une façade. Il ne se cache pas derrière un déguisement. Ce qu'il dit être, il l'est. Parce qu'on peut se cacher. Moi, je l'ai fait. Ça marche. Ça marche très bien. Je vous dis, un jour, c'était tout des débuts, j'étais chrétien. J'étais allé avec le pasteur faire une visite et il y avait une grand-mère qui était là. Et elle me regardait et moi... J'ai fait les yeux doux. J'ai fait le gars qui était « Ah, ah !» J'avais pas de lunettes à ce moment-là. Je disais, oh. J'avais un beau sourire angélique et tout. Et puis la grand-mère, elle m'a regardé. Et puis elle a dit au pasteur, oh. Ah, on voit qu'il a Dieu dans sa vie. Et je me disais, ma pauvre, si tu savais, je te joue la comédie, là. C'est vrai. Mais le pasteur, il me l'a dit après. Il m'a dit, il ne faut pas agir comme ça, Raymond. Ça ne marche pas. Et c'est vrai, ce n'était pas de l'authenticité. J'avais mis un déguisement, amen. Le monde qui m'entoure a besoin de voir des personnes authentiques. Il y a tellement de fauchetons qui nous entourent que les gens, ils ont besoin de personnes qui sont vraies. Et ça, c'est important. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous l'ai peut-être déjà raconté, cette histoire d'un colonel qui arrive tout nouveau dans le régiment où il était affecté. C'est lui, le grand chef du régiment. Il arrive et puis il est là, il est en train de préparer ses affaires. Et il y a un soldat qui arrive avec une caisse sous la main. Et puis le gars, il prend le téléphone, le colonel, il dit « Ouais, général machin, général Sherman, oui, ça va. Oui, je suis bien arrivé, tout est préparé. Il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi, je suis l'homme qu'il vous faut. Salut Bill. » Et puis il pose le téléphone, il se tourne vers le gars, il dit « Et vous, vous faites quoi, soldat ?» Il dit « Moi, je viens brancher le téléphone. » Je ne sais pas qui est-ce qui a eu l'air le plus bête, si c'était ce colonel ou si c'était ce soldat. Vous voyez, quand on n'est pas authentique, ça nous retombe toujours dessus. On ne peut pas jouer à être chrétien. Où on est, où on n'est pas. Les gens, ils recherchent des personnes authentiques qui vivent les mêmes choses qu'eux, qui font face aux mêmes problèmes qu'eux, aux mêmes difficultés qu'eux, aux mêmes échecs qu'eux, mais qui les affrontent. Des personnes qui se réjouissent des mêmes choses. Si les gens voient comment Jésus agit en vous, peut-être qu'ils viendront à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils viendront, mais peut-être qu'ils viendront. Les gens, ils ne cherchent pas des chrétiens parfaits. Ils ne cherchent pas des gens, comme on appelle, des gens qui ont toujours des « Amen, Alléluia » dans la bouche. Ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Ils cherchent des gens comme eux, dans lesquels ils se retrouvent, mais qui véhiculent le plus qu'il leur manque. Ils cherchent des gens qui véhiculent Jésus-Christ. Et ce matin, ce n'est pas un discours que je voulais vous faire, parce que ça me travaille. Ça me travaille depuis des semaines. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Le monde a besoin de voir Jésus. Et moi, je suis porteur de Jésus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai demandé à Bastien de venir, déjà. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis le sel de la terre, je le sais. Et au contact des gens, le sel, il a le plus de vertus, seulement au contact. Si le sel, il est mis dans un endroit puis qu'il sèche, il ne sert à rien. La Bible dit, il n'est même pas bon pour du fumier. Donc ça ne sert à rien du tout. La Bible dit que je suis la lumière du monde. Mais la lumière, elle éclaire que si elle est branchée. Et puis si elle est mise en valeur. Parce que si je mets de la lumière sous un entonnoir, ça ne sert à rien du tout. Il y a plus que nous sur la terre. Il y a plus que moi. Et ce plus, c'est ceux qui m'entourent. Dieu a dit que c'était des trésors. Qu'aux yeux de Dieu, on est des perles. Et quand j'ai compris que ce qui m'entoure, ça a beaucoup plus d'importance que moi, alors je vais tout faire pour aller les chercher. Je vais tout faire pour leur apporter ce que j'ai. Il y a tellement de gens qui souffrent. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas leur éternité. Amen. Il y a tellement de gens qui se disent, mais je vais y arriver avec ça, je vais faire ceci et cela. Et un jour, ils vont se présenter aux portes du ciel. Ils vont dire, tu vois, je suis allé visiter les gens qui étaient malades. Je suis allé les visiter. J'ai passé du temps avec ma voisine, toi, cette personne âgée. J'ai fait ses courses tout le temps, j'ai fait son ménage, j'ai fait toutes ces choses. Et puis, j'ai aidé. Il y avait tellement de gens dans la rue qui étaient malades, qui avaient des besoins. Je les ai aidés. Le Seigneur, il dit, je ne te connais pas. Moi, ça me fait mal quand j'entends ça. Le Seigneur dit, mais comment? Les gars, ils vont dire, mais comment? Tu ne nous connais pas? Tout ce qu'on a fait, il dit, mais... Moi, je connais celui-ci, je connais celle-là, cette personne-là, je les connais, oui. Mais ils n'en ont pas fait autant que moi, c'est vrai. Mais moi, je les connais au travers du sang de mon fils. Mais toi, je ne te connais pas. Ah, ça fait mal. Et puis le Seigneur, il va se tourner vers moi peut-être. Il va me dire, Raymond, je t'ai dit d'aller lui parler à lui. Pourquoi tu n'y as pas fait? Mais toi, Seigneur, j'avais déjà d'autres choses à faire. Par en enfer. Toi, t'es sauvé. Mais lui, par en enfer. Pourquoi tu n'y as pas parlé? Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Sincèrement, j'ai pas envie. J'ai déjà fait. Hein. Et ça fait mal. Tu as reçu quelque chose. Tu as beaucoup plus qu'aucun n'a reçu. Le monde a peut-être des richesses, il a peut-être plein de choses, des talents que toi tu n'as pas, mais tu as Jésus-Christ. Alors donne-leur à ceux qui ne le... apporte-le à ceux qui ne le connaissent pas. Sors de ta zone de confort. Sors. Traverse. Traverse la route. Peut-être quelqu'un en face. Tu vas aller vers lui, puis tu vas lui dire Jésus t'aime, il va te dire t'es cinglé ou quoi? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu auras essayé. Et puis, peut-être sur 10 que tu vas faire comme ça, où les gens vont te prendre pour quelqu'un qui n'est pas trop bien, il y en a un qui va dire, répète-moi ce que tu dis. Tu as dit que Jésus m'aimait. Et qu'est-ce que j'ai fait pour l'aimer? Il va dire, tu vas lui dire, rien. Il t'a juste créé parce qu'il veut t'aimer. Et moi, j'ai besoin d'être aimé. Et là, tu vas pouvoir lui présenter le plan du salut afin que lui aussi puisse venir se réjouir. C'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est prendre et bien se dire, j'ai reçu tellement Seigneur, alléluia. J'ai envie de le servir, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie de lui être utile, amen. J'ai envie de sortir de ma zone de confort parce qu'on a un Dieu qui est tellement grand, amen. Quand je me dis, mais ce que Jésus a souffert sur la croix, et ma petite honte de une minute, c'est rien. Ce matin, vous avez reçu du Seigneur. Cette parole, moi, elle me travaille. Et je me dis, j'ai pas fait, je sais pas combien de kilomètres il y a jusqu'à Londres, j'en sais rien du tout. Allez, 1h30 de vol, quoi. Bref, c'est pas beaucoup. Mais ils ont parlé que de ça. Que de ça. Il dit, comment on peut faire? Il y a tellement de gens, ils ont montré des réfugiés qui arrivaient, des gens qui n'avaient plus rien du tout. Ah, c'est une grande église à Londres. Hein. Ils ont pu aider 4 familles à se reconstruire. C'est merveilleux. Hein. Mais nous, on peut faire tellement. Le Seigneur a mis dans notre bouche les paroles de la réconciliation. Il a mis dans notre bouche, amen, ces paroles que lui-même aurait pu donner et qui ont transformé le monde, amen. Dieu est grand, amen. Est-ce que ton Dieu est grand? Est-ce que tu crois qu'il est encore plus grand que tu ne le penses? Il est encore beaucoup plus grand que tu ne penses le penser. C'est incroyable, les cieux des cieux, la terre entière, l'univers, ils tiennent dans sa main. Et pourtant, fait extraordinaire. Il vient habiter dans mon cœur, ça. Essayez pas de me demander comment ça se fait, j'en sais rien. Lui qui tient l'univers entier dans sa main, il vient habiter dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Il y a une chose que j'ai appris. C'est que ton cœur, il est plus grand que l'univers. Beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Tu peux contenir le Seigneur Jésus. Il peut venir dans ta vie. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. On va chanter ce chant. On va se mettre debout si vous le voulez. Et je vais vous inviter après à sortir de votre zone de confort. Et on va chanter ce chant qui nous dit, je pense que les paroles, elles vont s'afficher. On On a un Dieu qui est grand. Amen.
Et si grand, nous chantons que Dieu est si grand.
Tu es grand, Seigneur.
Tous verront que Dieu, combien tu es grand. Nous chantons que Dieu est si grand. Tous verrons combien tu es grand. Que Dieu est grand, car Dieu.
Amen, on a Dieu grand.
Est si grand. Nous chantons que Dieu est si grand. Nous verrons combien tu es grand.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout
Amen, on a un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est au-dessus de tout, qui a encore plus et plus et plus encore à nous donner. Alors, ce matin, on est là devant lui. On a chanté que Dieu est tout puissant, qu'il est grand, que le monde entier, enfin, tout a été créé par son pouvoir, que je suis sa créature et qu'il désire me connaître. Mais est-ce que moi, ce matin, je vais prendre cette décision de dire, Seigneur, je vais être fraise. Seigneur, je vais être authentique. Seigneur, je veux être ce porteur d'amour que le monde recherche. Je ne veux pas me cacher devant une façade, je ne veux pas utiliser des mots que les gens ne comprennent pas, Seigneur. Mais je veux être authentique avec tout ce que j'ai vécu, avec mon passé, avec mes défauts, avec mes qualités. Mais je veux porter ce message à ceux qui ne te connaissent pas. Si ce matin, c'est votre désir de dire, moi, Seigneur, quand je vois ce monde qui est perdu, quand je vois tous ces gens qui ne te connaissent pas, ces gens qui ont besoin de toi et moi, je connais la vérité. Alors Seigneur, me voici pour te servir. Utilise-moi comme je suis. Utilise-moi avec mes mots. Utilise-moi avec le peu de choses peut-être que je sais, Seigneur. Mais que je puisse faire la différence et que les gens le remarquent, Seigneur. Je sortir de ma zone de confort pour faire, Dieu, ta volonté. Si on est prêt à le faire, Seigneur, ce matin on va lever notre main. Amen. On va lever notre main et on va remercier le Seigneur, amen, de ce qu'il veut faire dans notre vie et ce qu'il veut faire au travers de notre vie. Merci, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ces mains levées, Seigneur, et moi, je veux lever ma main, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, qu'il y a encore plus et tellement plus de choses que tu tiens en réserve pour chacun de nous, que j'ai envie de les connaître, Seigneur, afin que le monde puisse être transformé, que le monde puisse recevoir de ta part, que le monde puisse te connaître, que le monde puisse être sauvé, que la joie puisse être dans les cœurs, que les solutions puissent être là à la place de tous les problèmes, Seigneur, que les guérisons puissent avoir lieu à la place de la maladie, Seigneur, que les besoins puissent être pourvus au travers de toute l'abondance que tu as pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de faire de moi, Seigneur, ce porte-parole, faire de moi cet ambassadeur, ce partageur de Christ, dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Amen.